Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless pour vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au menu aujourd'hui, on vous propose une interview avec Montaigne, pas le philosophe, il est mort il y a plus de 400 ans, mais la chanteuse qui représentera l'Australie à l'Eurovision. L'Eurovision qui commence demain et que vous pourrez regarder en exclusivité sur SBS. On va aussi se pencher sur le cas des universités australiennes et plus précisément sur celui des étudiants étrangers que les autorités, malgré la fermeture des frontières, souhaiteraient voir revenir. Et puis comme tous les mardis, on ira voir aussi ce qui s'est passé ces derniers jours en France. On fera également le point sur l'actualité sportive. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal. On y va! Et les principales actualités de ce mardi 18 mai. Pas de répit à Gaza où les affrontements entre Israël et les militants du Hamas ont déjà fait plusieurs centaines de morts. En Australie, la campagne de vaccination tourne au fiasco. Moins de 4% des personnes résidant dans des établissements pour handicapés ont été vaccinées. Ils sont pourtant éligibles depuis 3 mois. Et d'ici quelques jours, les Français d'Australie vont être appelés aux urnes dans le cadre des élections consulaires. On vous expliquera tout en fin de journal. Pas de répit dans le conflit qui oppose depuis maintenant près de 2 semaines Israël et la Palestine. D'après les Nations Unies, les bombardements israéliens dans la bande de Gaza ont provoqué le déplacement de plus de 38 000 Palestiniens et 2500 d'entre eux sont même devenus sans domicile fixe, d'après le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Nos confrères de SBS Arabic ont pu s'entretenir avec Fadi Houssam, un journaliste gazaoui dont l'immeuble a été détruit par l'armée israélienne. Il décrit sur place une scène de cauchemar.
Horrific moments, and no one understands what was going on. Children crying and women crying, and when the bombing stopped, there was a state of confusion among the people in the house, as we were about 40 people in the building. Some suggested to go out, and others urged to stay for safety.
Et sur ce conflit, le président américain Joe Biden a pour sa part demandé au premier ministre israélien de mettre en place un cessez-le-feu, alors qu'au moins 212 Palestiniens sont morts, parmi lesquels une soixantaine d'enfants, tandis qu'Israël recense de son côté 10 victimes, parmi lesquelles 2 enfants. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui pour faire le point sur la situation sur place. Les affrontements actuels sont plus violents encore que la dernière guerre qui a frappé Gaza, ça remonte à 2014. C'est ce qu'ont raconté les habitants de cette enclave palestinienne à Sami Boukhelifa, le correspondant de Radio France Internationale dans la région.
Alia Abou Amr a vécu toute sa vie à Gaza, mais pour elle, ces dernières nuits de bombardements ont été les plus destructrices jamais connues.
En une semaine, les raids israéliens ont fait plus de dégâts que durant les 50 jours de la guerre de 2014. On a pu avoir jusqu'à 30 frappes par minute. Et je ne parle que des bombardements aériens. Il y a aussi des tirs d'artillerie.
Comme les 2 millions de Gazaouis qui vivent sous blocus israélien depuis 15 ans, cette mère de famille est terrée chez elle avec ses proches. À Gaza, les civils n'ont nulle part où s'abriter.
Les enfants sont terrifiés. Que Dieu nous vienne en aide, ils nous ont brisés. Mais on essaye de faire bonne figure devant les petits pour ne pas les effrayer davantage.
Selon les habitants de Gaza, lors de la guerre de 2014, l'armée israélienne n'a ciblé les tours de la ville que durant les derniers jours du conflit. Cette fois-ci, dès le début, l'État hébreu a pulvérisé plusieurs de ses grands immeubles d'habitation. Selon l'armée, le Hamas dissimulait dans ses bâtiments ses activités terroristes. Sami Boukhelifa, Jérusalem, RFI.
Le dispositif COVAX, qui vise à fournir des doses de vaccins aux pays les plus pauvres, va être renforcé dans les jours à venir. D'après l'UNICEF, les pays de l'Union européenne, mais aussi ceux du G7, vont donner 150 millions de doses de vaccins. Par ailleurs, les États-Unis ont annoncé pour leur part qu'ils donneraient 20 millions de doses supplémentaires au cours des 6 prochaines semaines, alors que désormais plus de 60% des adultes américains sont vaccinés. Pour le président américain Joe Biden, la sécurité sanitaire des États-Unis ne peut être assurée que si la pandémie est sous contrôle au niveau mondial. Écoutez-le.
Today, we're taking an additional step.
Aujourd'hui, nous prenons une mesure supplémentaire pour aider le monde. Nous savons que l'Amérique ne sera pas complètement protégée tant que la pandémie ne sera pas globalement sous contrôle. À la fin avril, nous avons annoncé que nous allions fournir 60 millions de doses du vaccin AstraZeneca à l'étranger. Et aujourd'hui, j'annonce que nous allons aussi partager les vaccins autorisés aux États-Unis et que des doses de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson seront aussi disponibles à travers le monde. D'ici la fin de juin, quand nous aurons reçu assez de ces vaccins pour protéger tout le monde aux États-Unis, nous partagerons au moins 20 millions de ces doses avec d'autres pays. Cela signifie qu'au cours des 6 prochaines semaines, les États-Unis vont envoyer à l'étranger 80 millions de doses de vaccins. Cela représente 30% des vaccins produits par les États-Unis d'ici la fin juin. C'est plus qu'aucun pays n'a encore offert à ce jour, 5 fois plus que n'importe quel autre pays.
L'Inde, qui bataille déjà avec une vague épidémique très virulente, est aussi depuis 2 jours en proie à un très violent cyclone. Des vents de plus de 180 km/h balayent en ce moment même l'état du Gujarat à l'ouest du pays et on recense déjà au moins 16 morts à travers toute l'Inde. En outre, ces conditions météo très dangereuses perturbent la campagne de vaccination en cours. On fait le point avec le correspondant de RFI à New Delhi, Sébastien Farsi.
La ville de Bombay a sombré dans une nuit artificielle ce lundi alors que ses côtes ont été fouettées par d'énormes vagues. Les pluies torrentielles, accompagnées de vents cycloniques d'environ 160 km/h, ont inondé les lignes de train et forcé l'aéroport international à fermer. L'un des énormes centres de vaccination de la ville a aussi été évacué avant d'être inondé à son tour. Certaines de ses structures temporaires en bambou se sont finalement écroulées. Dans toute cette région, des arbres se sont effondrés sur les voitures et habitations et une dizaine de personnes sont décédées. Mais tout cela n'est qu'un avant-goût de ce qu'attend la région du Gujarat plus au nord. C'est là que ce cyclone, considéré comme extrêmement sévère, vient d'entrer dans les terres avec des vents de plus de 175 km/h. Les autorités ont déjà évacué 200 000 personnes et se préparent à subir la pire tempête tropicale de cette région depuis au moins 20 ans. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Une journée record à Ceuta, l'enclave espagnole qui se trouve sur la côte marocaine. Plus de 5000 migrants y sont arrivés hier en une seule journée, parmi lesquels plus d'un millier de mineurs. Certains sont arrivés à la nage, d'autres ont marché le long du littoral en profitant de la marée basse. On écoute les explications de Sofia Katsenskova pour RFI.
Des hommes, des femmes et des enfants ont utilisé des bouées gonflables, d'autres des canots pneumatiques et certains ont même nagé jusqu'au territoire espagnol de Ceuta. Selon un porte-parole de la garde civile espagnole, la marée était si basse à certains endroits qu'on pouvait pratiquement arriver à Ceuta en marchant. Des migrants tentent régulièrement de rejoindre Ceuta en escaladant les hautes clôtures qui séparent cette enclave du Maroc. Par la nage de façon aussi massive, c'est la deuxième fois. Fin avril, une centaine de migrants avaient déjà gagné ce territoire espagnol à la nage. La majorité d'entre eux avaient ensuite été expulsés vers le Maroc. Ces arrivées s'inscrivent dans un contexte de tensions diplomatiques entre Madrid et Rabat. En cause, la présence en Espagne du dirigeant du Front Polisario, le mouvement indépendantiste du Sahara occidental. Brahim Ghali a été soigné dans un hôpital espagnol pour le Covid mi-avril, ce qui a fortement déplu aux autorités marocaines. Le conflit au Sahara occidental oppose depuis plus de 45 ans le Maroc au Front Polisario, soutenu par l'Algérie.
En Australie, la campagne de vaccination, ça n'est décidément pas une réussite. On apprend ainsi aujourd'hui qu'à peine 4% des personnes résidant dans des établissements pour handicapés ont été vaccinées contre le Covid-19. Et ce, alors que ces personnes sont pourtant éligibles depuis le tout début de la campagne de vaccination, qui a commencé il y a maintenant 3 mois. Un bilan médiocre critiqué par le leader de l'opposition, Anthony Albanese, qui le qualifie même de honte nationale.
The government needs to get vaccination and quarantine right. Aged care residents and people with disabilities were people who were supposed to both be in the front of the queue. They were in the first stage. We were told that 4 million Australians would be vaccinated by the end of March. This government's been complacent. The government had two jobs this year, to get the vaccination rollout right and to fix quarantine. And they've been complacent in both areas.
Alors, à défaut de pouvoir se prévaloir de résultats satisfaisants concernant la population handicapée, Scott Morrison s'est pour sa part félicité du rythme des vaccinations effectuées dans les maisons de retraite.
The aged care population, we're over 85% now, and so that has been the population which was most at risk. We saw that, you know, when the contact tracing failed in Victoria, and we saw the second wave just wreak havoc in that state. And we saw the hundreds of lives lost there in Victoria, and they were the most elderly and the most vulnerable, and that's why we've made aged care such a high priority.
Et l'autre sujet qui fâche, c'est bien sûr la question des frontières. Elles sont fermées depuis plus de 15 mois. Les décideurs économiques, mais aussi les autorités sanitaires, appellent le gouvernement fédéral à dresser un plan pour les réouvrir. Fin de non-recevoir de la part du Premier ministre Scott Morrison, qui défend une approche qu'il qualifie de prudente vis-à-vis de la pandémie. D'après le budget présenté la semaine dernière au Parlement, le gouvernement envisage la réouverture de ces fameuses frontières pour le milieu de l'année prochaine. Une annonce qui n'a pas suscité de protestations particulièrement vives au sein de la population. Les Australiens n'ont visiblement pas de problème avec le fait qu'ils sont enfermés dans une sorte de prison dorée depuis plus d'un an. D'après un sondage réalisé par Newspoll pour le quotidien The Australian qui est paru hier, plus de 70% de la population soutient la fermeture des frontières. Ils ne sont visiblement pas plus pressés que ça, que le gouvernement les rouvre. Et le budget fédéral, je viens de vous le dire, il a été présenté la semaine dernière, mais le ministre du budget, Josh Frydenberg, est revenu dessus aujourd'hui à Sydney alors qu'il s'entretenait avec les représentants de Business New South Wales. Il a notamment souligné le fait qu'il pense pouvoir ramener le taux de chômage à son niveau d'avant la pandémie d'ici 2 ans maximum.
But the other part of the backdrop was that there are 800,000 new cases of COVID each and every day. The United States has spent $1.9 trillion but has not seen the lift in employment like we have. So the Prime Minister and I and the Finance Minister and the government more broadly made a decision that this budget had to lock in those gains. And that's what we've done. And taking this historic opportunity we have to drive unemployment even lower from 5.6 down to 5.1 where we were at the start of the pandemic last February, and then even below 5%.
Porter un couteau dans les écoles publiques de Nouvelle-Galles du Sud, ce sera interdit à partir de demain, mercredi. Ça semble évident, mais jusqu'à présent, ça n'était pas le cas. Un vide juridique dans la législation permettait jusqu'à présent aux membres de la communauté sikh de porter une dague cérémoniale pour des motifs religieux. L'interdiction intervient alors qu'un élève a été poignardé il y a 2 semaines au lycée de Glenwood dans le nord-ouest de Sydney. L'annonce a été faite par la ministre de l'Éducation de cet État, Sarah Mitchell.
This isn't in line with community expectations, so we will be working to make that legislative change. But in the interim, I've also asked the department to send advice out to our schools today, updating our policy to say that knives for religious purposes will be banned in government schools.
Cherche maître nageur désespérément. C'est la situation dans laquelle se trouvent actuellement des centaines de piscines à travers le pays qui ont le plus grand mal à recruter des professeurs de natation certifiés mais aussi des maîtres nageurs sauveteurs. Le président de la Royal Life Saving Australia, Justin Scar, appelle les personnes au chômage à envisager un changement de carrière et à pourquoi pas devenir maître nageur. La communauté française d'Australie, de Fidji et de Papouasie-Nouvelle-Guinée va être appelée aux urnes d'ici quelques jours dans le cadre des élections consulaires. Pour voter, il faut être majeur et inscrit sur les registres du consulat de France. Le vote en lui-même commence le 21 mai sur Internet. Vous pourrez vous exprimer de cette manière jusqu'au 26. Et puis, le 30 mai, ce sera le jour officiel de l'élection, celui où pour voter, il faudra se déplacer physiquement pour mettre un bulletin dans l'urne. Alors, ces élections, elles permettent donc d'élire des conseillers consulaires. Ils sont les représentants pour une durée de 6 ans de la communauté française en Australie, mais donc aussi à Fidji et en Papouasie. Et ils servent également de relais à cette communauté auprès des autorités officielles, le consulat notamment, l'ambassade, mais aussi la députée de la circonscription. En revanche, comme leur nom l'indique, ils ne sont que des conseillers et n'ont donc pas de pouvoir décisionnaire. Ils ne disposent pas non plus d'un budget, contrairement par exemple au conseil municipal d'une commune. Pour ce qui est des candidats, chez nous, 5 listes ont été déposées. Ensemble Citoyen et Solidaire, qui est soutenu par Europe Écologie Les Verts, Indépendance, Expérience et Proximité, dont la tête de liste est encartée chez les Républicains, la liste Solidarité en Australie, c'est la liste soutenue par le parti présidentiel En Marche. La liste Ensemble Maintenant est-elle proche du MoDem, parti centriste allié en France à En Marche? Et enfin, la liste Alliance Solidaire des Français de l'étranger, une association dont la présidente, la sénatrice Evelyne Renaud-Garabédian, est elle aussi rattachée en France au groupe Les Républicains. Et puis pour finir, on jette comme d'habitude un œil à la météo de ce mardi en Australie. Perth est sous la pluie, mais la température reste agréable à 24 degrés. 19 à Adélaïde où le temps est couvert aujourd'hui. Idem à Melbourne où il fait 18 degrés. 20 degrés à Sydney en revanche où il y a du soleil. 23 degrés à Brisbane. 28 degrés à Cairns et jusqu'à 32 degrés aujourd'hui à Darwin.
Journal des sports de ce mardi avec tout d'abord la course de moto GP, le Grand Prix de France, remporté par l'Australien Jack Miller. Deuxième victoire consécutive après celle en Espagne il y a 2 semaines. Le Giro d'Italia et la 10e étape hier, une course de 139 km remportée par Peter Sagan. On passe au foot, le prix Marc-Vivien Fauré de meilleur joueur africain de Ligue 1. En France, décerné à Gaël Katouka, qui joue pour Lens, une grande fierté pour lui. On l'écoute.
C'est une fierté, c'est mon premier trophée individuel. Donc voilà, je le prends avec fierté. Et c'est une bonne saison pour nous tous, surtout. Et on a montré de très bonnes choses, collectivement comme individuellement. Et voilà, être nommé devant ces deux joueurs que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est, comme je dis, c'est une fierté. Et surtout avoir mon premier trophée à Lens, là où j'ai gagné tous mes premiers trophées individuels, on va dire, étant jeune. Je suis récompensé aujourd'hui et je tiens à remercier d'ailleurs tous ceux qui ont voté pour moi.
Gaël Kakuta joue aussi, entre autres, pour les Léopards de la République démocratique du Congo, pays de ses parents. Son portrait avec Olivier Pron pour Radio France Internationale.
Il n'est pas le plus âgé des prix Marc-Vivien Fauré, mais Gaël Kakuta est à coup sûr celui qui a le plus bourlingué. 12 clubs dans 6 pays différents, c'est simple. Ce natif de Lille, il y a bientôt 30 ans, de parents congolais de Kinshasa, n'est resté qu'une seule fois à plus d'une saison dans une équipe. C'était au Vitesse Arnhem entre 2012 et 2014. Et vu celle qu'il est en train de boucler au Racing Club de Lens, promu fringant, au sein duquel il a aligné buts et passes décisives, il y a fort à parier que les supporters sans et or rêveraient de le voir prolonger l'aventure au stade Bollaert. Gabou, comme l'appellent ses amis, n'a pas caché récemment que cela l'intéressait. Revenu chez lui, ou presque, l'été dernier, là en tout cas où il avait été formé avant de s'échapper vers Chelsea, prématurément, à 16 ans, pour pas mal d'argent, et au final gâcher son talent. Qu'importe, il fallait mettre à l'abri ses frères, ses sœurs, et maman, infirmière de nuit, et veuve, bien trop tôt. Depuis, il y a eu des prêts, beaucoup, des voyages pas toujours au long cours, il y a eu la Chine, l'Espagne, l'Italie et le retour au pays, Amiens pour se remettre en marche, Lens pour montrer que le talent affiché à 8 ans ne l'avait pas quitté vraiment.
La 37e journée de Ligue 1 en France, dimanche, Lille n'est toujours pas champion après le match nul avec Saint-Étienne. Martin Guèze avec Christophe Diremzian pour RFI.
Dommage hein, pour les Lillois qui clairement ont gâché une cartouche. On le dit, on le répète, pour ce 4e titre dans l'histoire des Dogs, il faut prendre 4 points lors des 2 dernières rencontres. Ils espéraient en prendre 3 forcément ce soir, mais avec un point pris, tout n'est pas fini. Loin de là, ils sont toujours maîtres de leur destin. Ils ont 80 points, le PSG n'en a que 79. Et on ne peut pas vraiment dire qu'ils aient mérité mieux face à Saint-Etienne, des Stéphanois qui n'ont plus rien à jouer dans ce championnat, mais qui n'ont pas bradé cette rencontre. Ils ont opposé beaucoup d'agressivité, pas beaucoup de frappes, pas beaucoup d'occasions dans cette rencontre. Une seule vraiment grosse occasion côté Lillois, elle est intervenue à la 90e minute sur un coup franc de l'entrant Youssouf Yazici, l'un des nombreux joueurs turcs du LOSC, un coup franc bien enroulé pied gauche, détourné d'une superbe manchette par l'ange Green, ça ne s'invente pas, le gardien de Saint-Etienne, qui détourne sur son poteau après, dans le restant du match. On attendait Burak Yılmaz, le meilleur buteur lui aussi turc, avec 15 buts cette saison de Lille. Il n'a pas eu vraiment d'occasion. Jonathan David a été très décevant. On a eu des bons joueurs dans l'entrejeu, des bons latéraux, mais peu de mouvements, peu d'attaques. Et finalement, l'enjeu a peut-être pris le pas sur le jeu, comme le dit Lada.
On écoute maintenant la réaction de Christophe Galtier, le sélectionneur lillois.
On a fait une très mauvaise entame de match. On n'était pas du tout dans notre plan de jeu. Au contraire, on est sorti complètement de notre plan de jeu. Il y a eu beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de nervosité, beaucoup d'erreurs techniques. Sûrement pris par l'enjeu, je pense, vraiment. Il n'y a pas eu grand-chose, deuxième période. Pas grand-chose non plus, si ce n'est qu'à la fin, on manque de réussite. Du moins, il y a un bel arrêt du gardien. Nous n'avons pas fait le match qu'on attendait. J'aurai une discussion avec les joueurs pour qu'on soit beaucoup plus calme. Et il faudra mieux maîtriser notre sujet sur le dernier match.
Le Paris Saint-Germain a un point du leader. Lille a de son côté gagné 4 buts à 0 contre Reims. Précision de Antoine Grenier pour RFI.
Histoire logique et imparable, hein, on a envie de dire, du Paris Saint-Germain, 4-0. Le score est lourd, mais le sort était en faveur de Paris. Hein. Dès la 10e minute, Younis Abdelhamid tente un tacle désespéré alors que Kylian Mbappé frappe dans le but vide. Et dans le mouvement, le défenseur marocain a commis une faute sanctionnée d'un pénalty et d'une expulsion directe. Neymar s'est chargé de la sanction, 1-0. Le PSG a alors pris les commandes du match et il ne les a plus lâchées, d'autant que Reims à 10 contre 11 a un peu accumulé les erreurs, notamment à la 24e minute avec une passe dans la surface mal assurée. Mbappé surgit et marque 2-0. La seconde période a été du même acabit que la première. Marquinhos sur corner inscrit le troisième but parisien et puis Moïse Kean, entré en cours de match, conclut la démonstration d'une frappe croisée. Ce soir, Paris devait gagner. Les lumières du Parc des Princes s'éteindront sur un sentiment de mission accomplie. Paris s'est surtout mis en confiance à 3 jours de sa finale de Coupe de France contre Monaco et à 1 semaine de son match à Brest. Point final de son autre défi qui est de conserver sa couronne.
En Espagne, l'Atlético de Madrid a 2 points d'avance sur le Real de Madrid à une victoire du titre. Chez les filles, le FC Barcelone a gagné la finale de la Ligue des Championnes contre Chelsea, 4-0. En Angleterre, la finale de la Cup, Leicester a remporté sa première Coupe d'Angleterre, c'était samedi soir, contre Chelsea, 1-0. Et il y avait du monde dans le stade de Wembley. Reportage Claire Di Giacomi pour RFI.
À quelques pas de l'entrée du stade de Wembley, Zach et son père Keith sirotent une dernière bière avant le match. Ses fans de Leicester ont pu acheter leur billet grâce à leur fidélité au club et ils jubilent de retrouver la ferveur de leur groupe de supporters.
Excited. Je suis très content. La dernière fois qu'on a vu un match, c'était en mars 2020, ça fait très longtemps.
On a tellement attendu. On passe notre vie au stade normalement chaque semaine, alors ça a été dur. Donc oui, ça fait du bien d'être de retour.
Mais pour pouvoir rentrer dans le stade, il fallait se plier à quelques règles. Émilie, 28 ans, écharpe de Leicester sur les épaules, est venue avec son compagnon.
On a d'abord dû donner notre consentement pour participer à l'étude. Puis on a fait un test dans les 48 heures et on l'a fait avec un kit à la maison. Puis un autre test PCR aujourd'hui. On devra en faire un dernier dans 5 jours pour aider la recherche.
Et dans les gradins, les masques et les distanciations physiques sont toujours de rigueur. Mais peu importe, pour Michel, cette soignante a pu occuper l'une des places réservées à ceux qui se sont mobilisés pendant la crise.
Cela ne me pose aucun problème. Je suis très heureuse d'être ici. Et si c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir de nouveau sortir et pour que l'économie reparte, je le fais volontiers.
Les autorités britanniques espèrent pouvoir assouplir encore ces mesures, notamment pour le championnat d'Europe de football. Les demi-finales et la finale se tiendront à Wembley en juillet.
Tennis et les Masters 1000 de Rome avec cette finale tant attendue dimanche entre Novak Djokovic et Rafael Nadal comme au bon vieux temps. Et c'est Rafael Nadal qui a gagné en 3 manches son 10e titre à Rome. On écoute Rafael Nadal.
Oh, it's amazing. No? I have this trophy in my hands for the 10th time. It's just something impossible to imagine, but happened, so super happy. Can't thank enough my team, life, for all these opportunities, and everybody. All support have been huge during all these years. So have the trophy today, this year is just amazing.
Chez les dames, la défaite écrasante de Karolina Pliskova, la Tchèque, 6-0-6-0 face à la Polonaise Iga Świątek. Le match a duré 46 minutes. Voilà pour le journal des sports de ce mardi. Comme chaque mardi, place à présent à l'actualité française. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
À la une, le laboratoire français Sanofi qui espère pouvoir mettre sur le marché son vaccin contre le Covid-19 à la fin de l'année.
Oui, Sanofi a publié ce lundi 17 mai les résultats de son essai clinique de phase 2 concernant le vaccin contre le Covid qu'il développe en partenariat avec le groupe britannique GSK. Cet essai est concluant, selon le communiqué du groupe français. L'administration du vaccin pour les sujets qui l'ont reçu a induit, je cite, la production de concentrations élevées d'anticorps neutralisants chez les adultes, toutes tranches d'âge confondu. Et quand Sanofi parle de toute tranche d'âge confondu, cela signifie de 18 à 95 ans. Cette étude dite de phase 2, elle a été menée aux États-Unis et au Honduras. Elle porte précisément sur 722 sujets volontaires. Autrement dit, pour véritablement confirmer ces résultats très encourageants, hein, il y a encore une étape, l'étape clinique de phase 3 sur un échantillon qui là sera beaucoup plus large et qui devrait être lancée. Cette étape lancée prochainement sur une population de plus de 30 000 personnes recrutées là dans différents pays. Et si les résultats de la phase 3 confirment ceux de la phase 2, à savoir efficacité et protection contre le coronavirus et absence d'effets secondaires graves, alors le vaccin de Sanofi pourrait être mis sur le marché avant la fin de cette année 2021.
Pour le groupe français, l'enjeu est de taille, car Sanofi a pris beaucoup de retard dans la course contre le vaccin.
Et oui, si le vaccin de Sanofi est mis sur le marché fin 2021, cela voudra dire qu'il arrivera un an après les autres, après les premiers vaccins Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Bien sûr, Sanofi a beau jeu d'avancer que ce n'est pas forcément un handicap d'arriver comme cela après les autres, prétextant que de toute façon de multiples vaccins seront nécessaires contre le coronavirus pour sans doute encore longtemps. Les dirigeants du groupe ont communiqué en ce sens, hein, ce lundi 17 mai, qu'il faudra peut-être, sans doute, à l'avenir, des troisièmes doses à un moment donné, qu'il faudra s'adapter aux variants et peut-être se refaire vacciner tous les ans pendant plusieurs années. Tout cela est vrai, et d'ailleurs Sanofi travaille à la fois sur la souche initiale classique du coronavirus et sur un vaccin qui neutraliserait plus spécifiquement le variant dit sud-africain. Mais derrière la communication du groupe pharmaceutique français, de ses dirigeants, il faut bien dire les choses. Sanofi est censé être le fleuron de l'industrie pharmaceutique française et a bénéficié de lignes budgétaires conséquentes, d'aides publiques, entre autres, pour développer un vaccin contre le Covid-19 dans cette guerre commerciale qui ne dit pas son nom entre les États. Sanofi a subi à l'automne dernier un véritable camouflet, alors que les premiers vaccins, nous le disions, Pfizer, AstraZeneca, les vaccins dits à ARN messager, étaient mis sur le marché. Eh bien, Sanofi annonçait dans le même temps, au mois de décembre, l'échec des phases 1 et 2 de ses essais cliniques. Le vaccin mis sur pied n'était tout simplement pas efficace. Ces résultats très décevants. Alors, il s'est avéré que la composition du cocktail, on va l'appeler comme ça, du cocktail vaccinal, n'était pas bon. L'un des antigènes utilisé était insuffisant. Depuis, le groupe français a donc corrigé le tir. Il a fallu tout reprendre à zéro. Et les derniers résultats, on vient de le dire, sont concluants. Mais cet épisode, Il a laissé des traces. L'image du groupe français Sanofi en a pris un coup à l'international et en plus haut lieu du côté des politiques, de l'Élysée à Matignon, du président de la République Emmanuel Macron, au Premier ministre Jean Castex, l'embarras était palpable. Il y a encore un an, la France misait plus que tout sur ce vaccin-là, un vaccin français, cocorico. Au sein de l'Union européenne, certaines voix se sont même fait entendre à un moment pour estimer que les Français ralentissaient les commandes des vaccins Pfizer ou AstraZeneca dans l'attente et l'espoir de pouvoir imposer le vaccin Sanofi. Eh bien, à l'arrivée, comme d'ailleurs le vaccin espéré par l'Institut Pasteur, qui lui a été purement et simplement abandonné, eh bien, la France a dû s'en remettre à ceux qui ont été les plus rapides et les plus efficaces.
En France, justement, où en sont les chiffres relatifs à la pandémie ?
Eh bien, depuis 15 jours, la situation s'améliore, hein, c'est manifeste. Tous les indicateurs, lentement mais sûrement, sont à la baisse. Là où il y a encore un mois, on était à plus de 30 000, 40 000 nouveaux cas de diagnostiqués tous les jours. En moyenne, on se trouve plus aujourd'hui dans une fourchette entre 15 et 20 000 nouveaux cas, même si tout cela dépend bien entendu du nombre de personnes qui vont aller se faire dépister. Mais cela commence à avoir des répercussions sur le nombre des décès quotidiens également à la baisse, même si on dénombre encore, et cela peut paraître énorme, jusqu'à 200 décès par jour. Mais surtout, parallèlement à cette tendance qui résulte en partie du confinement qui a été imposé au mois d'avril, la campagne de vaccination bat son plein. Plus de 20 millions de Français ont reçu au moins une dose. Hein, on a passé le cap des 20 millions ces derniers jours. Et sur ces 20 millions de Français, la moitié a même reçu ces deux doses de vaccin. Donc forcément, toutes ces personnes vaccinées, a priori, elles sont protégées et elles ne véhiculent plus, ou beaucoup moins en tout cas, le virus. Cette campagne de vaccination, on s'en souvient, indépendamment de ce qu'on vient de dire sur le vaccin Sanofi, elle a été très compliquée à mettre en marche en France, très poussive au début de l'année, beaucoup de retard à l'allumage, dans la logistique. Mais depuis quelques semaines, ça y est, le rythme de croisière est atteint. Le gouvernement a progressivement levé les barrières d'âge. Hein, même les plus jeunes peuvent désormais postuler à la vaccination. Le seul souci qu'il reste, c'est la réticence vis-à-vis du vaccin AstraZeneca, avec les cas de thrombose et les polémiques qui ont suivi. Les médecins vous expliquent qu'il est très difficile de convaincre une personne aujourd'hui de se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca. Les autorités françaises l'ont retiré, principe de précaution, pour les personnes de moins de 55 ans. Mais pour les plus de 55 ans, il est toujours préconisé et on se retrouve à avoir aujourd'hui un Premier ministre, Jean Castex, hein, bien qui exhorte ces Français de plus de 55 ans d'avoir confiance et de se faire vacciner avec AstraZeneca. Il faut dire que les commandes ont été faites, attendent, preneurs, notamment chez les médecins généralistes.
Merci Émile pour avoir décrypté l'actualité française. Bonne journée, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
La pandémie a frappé durement le secteur des étudiants étrangers en Australie. Plus de 100 000 étudiants internationaux étaient bloqués à l'étranger lorsque les frontières de l'Australie ont été fermées pour la première fois en février 2020 et les nouveaux étudiants internationaux ne peuvent toujours pas entrer dans le pays. Sitou Zin, qui suit des études de médecine à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, est arrivé en Australie du Myanmar en 2019 pour commencer sa formation. Heureusement, il s'est trouvé à Sydney lorsque les frontières ont été fermées pour la première fois et il a donc dû poursuivre ses études alors même que les cours passaient de la présentielle à l'apprentissage en ligne. Selon Sitou Zin, beaucoup de ses camarades de classe ne sont toujours pas rentrés en Australie et certains d'entre eux cherchent d'autres pays où ils vont pouvoir terminer leurs études.
Most of the international students definitely want to come back as soon as possible, but as we all know, it's not possible and will not be possible for the foreseeable future, and they are definitely looking at other options in like either transferring to universities in their home country or abroad, like the United States or the UK, where the borders are open for international students. And yep, and most of my friends who are currently enrolled in medicine at UNSW have applied for exemption. They've applied for like 10 to 20 times, but they've all been rejected.
Une nouvelle modélisation du Mitchell Institute évalue l'apport des étudiants étrangers à l'économie australienne à 40,3 milliards de dollars en 2019. Mais suite à la fermeture des frontières consécutives à la pandémie, ce secteur ne rapportera que 20,5 milliards de dollars d'ici la fin 2022. Rien que pour la Nouvelle-Galles du Sud, en 2019, les étudiants étrangers rapportaient 14 milliards de dollars à l'économie de cet État. Afin d'essayer de récupérer une partie de ce manque à gagner, la Nouvelle-Galles du Sud a présenté un plan COVID-safe au gouvernement fédéral pour examen. La proposition permettrait aux étudiants étrangers de revenir, à condition de passer leur quarantaine dans un des sites spécialement approuvés à Sydney. Le premier ministre Scott Morrison a confirmé que le gouvernement fédéral a été informé de cette proposition ambitieuse.
The premier and I have already discussed these matters before, and they've been working away on this. And we've always said that we want to be working with the states and with the sectors about how they can address these issues, and we will be working cooperatively with them. There's still a long way from landing this, I should stress, at this point. But it's something that we're encouraging of, but it's got to be done safely, and we've got to be able to do it. In a way that obviously doesn't risk the great success we've had. I mean, because basically that's what the budget's about, Ben. It's about securing Australia's recovery.
La nouvelle survient malgré que M. Morrison et le trésorier fédéral Josh Frydenberg aient déclaré que les frontières de l'Australie resteraient fermées jusqu'à l'année prochaine. La proposition de la Nouvelle-Galles du Sud stipule que les étudiants étrangers arrivant dans cet État seraient comptés sous un plafond d'arrivée distinct qui n'affectera pas les places réservées aux citoyens australiens de retour de l'étranger. Le plan de la Nouvelle-Galles du Sud est très attendu, notamment par Pamela Gutierrez aux Philippines. Elle a terminé sa licence en design à Manille et espère faire sa maîtrise à l'Université de Sydney.
I've been looking through courses and different schools in Australia during the pandemic. And right now I'm actually just waiting for my acceptance letter if ever I would, you know, be accepted to the schools that I've applied for and to the design courses that I've applied for. However, there are some pros and cons right now to just doing it online versus, you know, having it in person. I mean, doing it online, it's good for me right now because the borders aren't open yet. But I would just love to do all my lab works and any other items or any other school works in person as well. So that's what I'm looking forward to when the borders open and when I go to Australia.
Alors que Pamela Gutierrez est prête à commencer sa formation en ligne en attendant l'ouverture des frontières, on prévient que les inscriptions en ligne à elles seules ne pourront pas combler le manque à gagner. Selon les chiffres du Mitchell Institute, en novembre 2020, un peu moins de 17 000 nouveaux étudiants s'étaient inscrits en dehors de l'Australie, ce qui ne représentait que 3,4% de toutes les inscriptions. L'Institut a conclu que les étudiants internationaux qui s'inscrivent en ligne ne sont pas assez nombreux pour combler la chute du nombre des inscriptions des étudiants internationaux. Catriona Jackson des universités australiennes affirme que la fermeture des frontières internationales jusqu'à l'année prochaine posera des sérieux défis à toutes les universités australiennes.
The universities have a very serious revenue challenge. We lost $1.8 billion last year, $2 billion predicted to be lost this year. If we don't have students back from overseas in substantial numbers before the middle of next year, the situation will get worse. No sector can sustain those sorts of losses without real damage to the nation, real damage to our ability to be productive and recover.
Le sort du secteur des étudiants internationaux en Australie repose désormais sur la politique de frontières du pays.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec ce morceau qui s'appelle New Day et qui a été composé par le beatmaker français Dougie Oggy. Il collabore sur ce morceau avec le chanteur André avec deux R. Nous, on se retrouve dans deux jours, jeudi à 13h précise pour une nouvelle émission en direct. Et d'ici là, vous pouvez continuer à nous écouter en podcast directement sur notre appli SBS Radio ou bien en vous abonnant à notre chaîne SBS French sur toutes les plateformes de streaming audio. Passez une excellente après-midi et à très bientôt. You used to see me in the dark, now I'm shining bright, love.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.